Radio Kapi.
Le journal Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité et l'une sacrée pour la nation organisent en ce moment même au palais du peuple ici à Kinshasa des primaires pour départager Modeste Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et Christophe Mboso au poste de président de l'Assemblée nationale. L'UDPS n'a donné aucun mot d'ordre de vote. 3000 recrues, dont une trentaine de femmes, ont terminé au Maniema une formation des 10 jours au centre d'entraînement de Luama. Ce recyclage s'inscrit dans le cadre du renforcement des effectifs des FARDC. Notre invité, c'est le chef de la zone de santé de Dungu Doruma dans la province du Haut-Uele. Docteur Lucien affirme que cette zone de santé du territoire de Djougou est en proie à la rougeole depuis 4 mois. Le bilan fait état de 8 décès sur plus de 300 malades. Madame, messieurs, bonsoir. De la politique pour commencer votre journal. Ici à Kinshasa, l'Union sacrée pour la nation organise en ce moment des primaires pour départager 3 candidats au poste de président de l'Assemblée nationale. Le vote bulletin fermé est précédé d'une prise de parole de 5 minutes successivement par Modeste Bahati Lukwebo, Christophe Mboso et Vital Kamerhe. De ces 3 candidats, Vital Kamerhe compte un grand nombre de députés nationaux suivis de Modeste Bahati Lukwebo, puis Christophe Mboso. Pour en parler, retrouvons au Palais du Peuple Michel Kifindangoy.
Prévu pour 14h et repoussé à 15h, la séance portant élection primaire a enregistré plus de 2h à 3h de retard avant de commencer. En ce moment, le Palais du Peuple est fortement envahi par les députés de la majorité présidentielle ainsi que par des milliers de militants de l'UNC de Vital Kamerhe, de l'AFDC de Bahati Lukwebo ainsi que de l'AACRD de Christophe Mboso. De tous ces 3 candidats, Vital Kamerhe est le plus favori. Son regroupement politique, l'UNC, compte 34 députés, derrière l'UDPS et sa mosaïque qui compte plus d'une centaine de députés. Modeste Bahati Lukwebo, avec son AFDCA, vient en deuxième position des favoris, avec aussi une trentaine de députés. Christophe Mboso, l'actuel président du bureau provisoire, a moins de 10 députés. Mais il peut compter notamment sur le soutien de l'UDPS. Une chose est vraie, le parti du président de la République n'a pas donné officiellement un mot d'ordre de vote, mais l'un des 3 candidats qui sera soutenu par l'UDPS aura plus de chances d'être élu aux primaires comme candidat unique de l'Union sacrée au poste du président de l'Assemblée nationale. Des Palais du Peuple, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
La nouvelle société civile congolaise dénonce en ce moment la tentative de prise en otage du peuple congolais en détresse et la privatisation de l'État congolais par une certaine classe politique égoïste. Déclaration faite ce mardi à Kinshasa dans un communiqué. Son coordonnateur dit déplorer le fait que près de 4 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi, la RDC peine actuellement à mettre en place le gouvernement malgré la nomination de l'informateur et de la première ministre. Des consultations tire en longueur, comme si ces autorités ne sont pas conscientes de l'extrême urgence de sécuriser le pays occupé actuellement par les armées rwandaises et ougandaises avec la bénédiction de la communauté internationale, affirme Jonas Tchombela. Il est au micro dans l'Inrung Mouchinch.
Pendant ces temps, regrette la nouvelle société civile, à Kinshasa, cette préoccupation majeure et vitale de la nation est reléguée au second plan et devenue le cadet de soucis de la majorité au pouvoir. L'ère est plutôt à la guerre de positionnement dans les institutions de la République. Près de 70% dis-je, des députés nationaux ont pour suppléants les membres de leur famille biologique. La nouvelle société civile congolaise craint que cette propension se répète dans la nomination des membres du gouvernement, dans la diplomatie, comme dans les entreprises publiques. Décidément, le pays est pris en otage et privatisé par une minorité de la classe politique égoïste actuellement au pouvoir. C'est toujours le même figure politique qui ont mis le pays à genoux et qui tente de revenir ou de se maintenir avec la même méthode de positionnement familial. Le renouvellement de la classe politique, encore du chemin à faire en République démocratique du Congo. Une promesse sans lendemain.
Fin hier après-midi au Maniema de la formation des 10 jours des militaires, le commandant du centre de Luama a indiqué à l'occasion que ce recyclage s'inscrit dans le cadre du renforcement des effectifs des FARDC. Reportage à Kindu de Florence Kizalunga.
Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait savoir qu'après cette formation, ces militaires seront déployés pour la défense de l'intégrité nationale. Mais qu'est-ce que ces jeunes commandos ont appris? Le commandant centre d'entraînement Commando Luama répond.
Pendant l'entraînement, les notions suivantes ont été reprises au profit des stagiaires commandos. Tactique de combat, opération spéciale, amphibie, piste de corde, piste d'obstacle, combat sans armes, orientation, armement, technique de tir au combat, sauvetage au combat, les droits des conflits armés, éducation physique et sport et la survie au combat.
De son côté, le commandant détachement belge les exhorte en ces termes.
Jeune commando, la passée n'était pas facile. Et la formation est dure parce que le travail d'un commando est dur. Maintenant, c'est à vous de défendre le territoire de la République démocratique du Congo.
Les commandos formés se disent être prêts pour défendre le pays.
J'ai la joie tout simplement, un jeune commando, et j'ai dit aux autres, approchez pour aller au Bounelekolo Nabiso.
J'ai une très grande joie parce que le lendemain, je serai quelque part pour aller défendre notre pays.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
En plus bref, au Nord Kivu, la peine de mort a été décidée hier après-midi par le tribunal militaire de Goma contre un soldat des FARDC de l'unité spéciale de réaction rapide. Ces soldats étaient déployés sur la colline de Kanaba, non loin du site de déplacés de Lushagala, dans le quartier Mugunga, commune de Karisimbi. Ce soldat des FARDC était impliqué dans le meurtre d'un élève de l'Institut Luachi de Sake déplacé à Mugunga. Le verdict a été rendu devant les parents de la victime et des nombreux déplacés vivant actuellement à Lushagala. Autre nouvelle sur Radio Kapi ce soir, 17 corps sans vie ont été repêchés des eaux de la rivière Ituri en l'espace de 2 semaines dans le groupement de Bakwanza, territoire de Mambasa en Ituri. Ce bilan a été dressé par la nouvelle société civile lors d'une rencontre tenue hier après-midi entre les notables de la localité de Matolo avec l'administrateur du territoire et le commandant de la brigade d'intervention. Parmi la cinquantaine des civils pris en otage par les rebelles ougandais de l'EDF, la plupart ont été exécutés. C'est ce que nous raconte à Bounia Martial Kizebiamungu.
L'activisme des ADEF de la région de Matolo à 6 heures de marche de Mambasa Centre s'est accentué le 22 mars dernier avec l'enlèvement de plus de 50 personnes à majorité des femmes et enfants. Selon la nouvelle société civile congolaise, ces rebelles profitent de l'absence des forces de sécurité dans cette entité pour commettre des exactions contre des civils. Il y a plus d'une semaine, plusieurs corps sans vie ont été repêchés par des paysans des eaux de la rivière Ituri qui traversent Matolo. Cette structure citoyenne indique que d'autres corps de personnes enlevées par des ADEF flottent encore dans la même rivière. Consternés par cette situation, des notables du groupement Bakwanza à Matolo sollicitent l'intervention rapide des militaires pour mettre fin à cet activisme des ADEF dans leur entité. Le commandement de la 31e brigade d'intervention rassure que des dispositions sont en cours pour déployer l'armée dans cette région située à la limite avec le territoire de Beni au nord Kivu. Bounia Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Dans un autre registre, au sud Kivu, la montée des eaux du lac Tanganyika n'a pas épargné du tout certaines structures économiques locales qui attiraient déjà les visiteurs dans le territoire d'Uvira. Entre la frontière de Kilomoni et Kalundu, à l'extrême sud de la ville, des hôtels, des bars, des restaurants et même des espaces de divertissement ont carrément fermé leurs portes. Le chef de service de l'économie nationale dans la ville, Pascal Chabani, parle des manques à gagner considérables. À Ouvira, la correspondance de Fiston Goma Mayabala.
Bahari Beach, un hôtel à 3 étoiles, a été touché par cette calamité naturelle. Il est le plus emblématique aux côtés d'Ouragan Beach, Flat Caribou Lodge, Villa Ilac, Ciel Bulumba et Biden Beach qui sont envahis par les eaux sur la route menant vers la frontière de la RDC avec le Burundi. Dans certaines chambres comme à l'hôtel Eden City et à la plage d'Or, les eaux ont atteint 80 cm de hauteur, couvrant jardins, piscines et des salles de réception jusqu'à 500 mètres de la limite normale du lac Tanganyika vers la route principale. Le chef des services de l'économie nationale de la ville d'Uvira, Pascal Chabani, s'est rendu ce lundi au beach Maindelo où le désastre est similaire.
Il y a les marchandises qui proviennent le long du lac Tanganyika. Le frétin, le maïs, le mikéké, les riz. Pour décharger ces marchandises ici, le marché Maindelo aussi, ça pose problème. Les dépôts sont déjà envahis. Il y a les trafics transfrontaliers. Les Tanzaniens qui nous amènent les riz, ils ont arrêté. Ils ne savent pas où ils vont entreposer ça. Et les Chinois, par exemple, qui nous amenaient les ciments de Kabimba. Aujourd'hui, ils sont en difficulté parce que tous les ports sont envahis par les eaux du lac Tanganyika.
Ce chef de service dit avoir fait un rapport à sa hiérarchie pour créer un mécanisme en vue de sauver ce qui reste à sauver. D'Uvira Fiston, Goma Mayaba, la Radio Kapi.
Non loin de là, au Tanganyika, plusieurs ponts se sont effondrés dans le territoire de Moba. C'est confiant à Radio Kapi ce mardi. Le coordonnateur de la société civile locale parle des pluies diluviennes et qui s'abattent ces jours-ci sur la région. Léon Taboupessa redoute des conséquences néfastes. Il l'est dit à Paul Mounanga.
Dans le territoire de Moba, plusieurs ponts ont été emportés par les rivières suite aux pluies abondantes qui se sont abattues ces derniers temps. Nous avons le pont de la rivière Lufuko qui a divisé le territoire de Moba en deux. Donc le Moba centre est coupé avec Moba plateau, donc le haut plateau de Marungu. Présentement, il est vraiment difficile que les véhicules quittant Pweto, quittant Lubumbashi puissent arriver à Moba. Nous sommes aussi en Pala où nous avons aussi un pont qui a été emporté. Portés toujours par la rivière Lufuko. D'autres ruisseaux ont aussi emporté des ponts. Il vaut mieux que le gouvernement puisse faire très rapidement déconstruire les ponts pour que Moba soit ouvert à d'autres territoires, Moba soit ouvert à d'autres pays tels que la Zambie. Et nous craignons, nous en tant que population, qu'il y ait hausse des prix des produits manufacturés, des marchandises pour traverser. Maintenant, il y a même des coûts qui doivent être ajoutés pour qu'on puisse faire parvenir les marchandises dans notre territoire de Moba.
Et dans la province du Kwilu, le pont Kabangu, jeté sous la rivière portant le même nom, a cédé alors que les travaux de montage étaient en cours suite à une erreur technique de l'office des routes, selon la société civile locale. Ces allégations ont été rejetées en bloc par le directeur de ces services de l'État. Michel Miseka assure que l'incident a eu lieu alors que les travaux de montage du pont évoluaient à 90%. Il a été joint par Irine Bonan Luzolo.
Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux que les ponts s'est écoulé suite au très mauvais travail de l'office des routes, ça, je suis contre. Parce que le travail qui était déjà fait, c'était au niveau presque de 90% des réalisations. Mais il y a eu seulement un petit incident, des malentendus. Il y a un conducteur qui devrait pousser avec les bulldozers les ponts. Alors la personne qui était en train de lui indiquer tout ça, il s'attendait pas bien et qui est malheureusement... Le pont a essayé de glisser un peu sur les talus. Et c'est que je constate que le pont n'est pas tombé dans l'eau. Donc l'office de route s'y met rapidement pour rétablir les travaux comme il se doit. Ça veut dire que nous devons rapidement démonter les éléments du platelage pour que nous puissions encore reprendre les montages et puis le pont va se rétablir sans problème. Je suis en train de faire un rapport à qui des doigts pour demander aussi un peu de moyens et un peu du temps pour terminer. Complètement.
Rappelons que le pont Kabangu relie la cité de Bulungu à la ville de Kinshasa et depuis son effondrement suite à la vétusté, le trafic est désormais suspendu entre le reste des territoires et la capitale. Au Congo central, une tornade a causé d'importants dégâts matériels dans la cité de Kimpese. Une bonne partie de la toiture du pavillon de médecine interne et de l'hôpital général, d'autres bâtiments dont le bureau de la zone de santé ont été emportés. Le médecin chef de la zone de santé plaide pour une assistance des autorités. Docteur Jean-Luc Bataleoua, Lady Anana Plurichmambou.
Besoin d'intervention d'urgence car le malade étant confiné dans les quelques chambres dans des conditions inhumaines pendant que les pluies se poursuivent au quotidien et les salles sont inondées d'eau. Dieu merci qu'il n'y a pas eu perte en vie humaine, mais du moins on a perdu beaucoup d'histoires du genre, toute la documentation du bureau central, les ordinateurs qui y étaient et autres matériels. Il s'est de rappeler qu'au bureau central, l'urgence s'impose car la chaîne de froid pour le maintien des vaccins pose de gros soucis. C'est ainsi que nous demandons à tous pour une aide d'urgence pour que nous puissions avoir tôle clous, bois, triplex et autres biens pour pouvoir réparer en urgence cette toiture afin que la chaîne de froid qui garde le vaccin soit réhabilitée en urgence.
Actualité internationale.
En Guinée, la société civile vient de créer l'Union Sacrée, une coalition de la société civile et des partis de l'opposition. Dans une déclaration faite ce matin, ce nouveau regroupement a appelé la junte à organiser au plus vite des élections. Il faut remarquer que la transition présidée par le général Mamadi Ndoumbouya veut à tout prix confisquer le pouvoir pour n'avoir pas respecté les échéances convenues. Et puis, réaction des Émirats Arabes Unis un mois après des accusations portées par le représentant permanent du Soudan au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité à New York, la mission émiratie auprès de l'ONU nie tout soutien aux forces de soutien rapide du général Emeti et s'indigne en même temps. En raison de ces accusations, le représentant de Khartoum a demandé au Conseil de sécurité de sanctionner les Émirats Arabes Unis.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de la zone des santé des Dungu-Doruma dans la province du Haut-Ouélé. Docteur Lucien Arowando affirme que cette zone des santé du territoire de Djougou est en proie à la rougeole depuis 4 mois. Le bilan fait état de 8 décès sur plus de 300 malades. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Docteur Lucien Arowando, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Nous apprenons que votre zone de santé fait face à l'épidémie de rougeole. Qu'en est-il exactement?
Exactement, notre zone de santé fait face à cette épidémie depuis la dernière semaine de l'année 2023. Et jusqu'à ce jour, les cas ne cessent de s'augmenter. Alors, lorsque nous avons commencé à suspecter les cas de la rougeole, nous avons prélevé des échantillons que nous avons envoyés à l'antenne PEV, qui elle a envoyé à l'INRB à Kinshasa. Donc 8 échantillons sur 9 se sont révélés positifs.
Et à ce jour, on est à combien de personnes déjà affectées par cette maladie de rougeole dans votre juridiction?
Oui, à ce jour, je dirais jusqu'à la 15e semaine, la zone de santé a déjà notifié 332 cas de rougeole. Malheureusement avec 8 décès. Les 8 décès dont je parle, ce sont les décès au niveau de l'établissement de soins de santé. Malheureusement, il y a d'autres décès que nous ne pourrons pas rapporter, des décès qui sont survenus dans la communauté, parfois dans des villages que nous ne saurons pas rapporter.
Docteur Lucien, quelles sont les tranches d'âge qui sont plus concernées par cette épidémie?
Ce sont les enfants, généralement au-delà de 5 ans, des enfants qui sont entre 5 ans et 10 ans. Malheureusement, il y a aussi des petits-enfants, mais il y a des petits-enfants généralement à partir de 6 mois même, il y a des cas, mais la tranche d'âge la plus touchée, c'est des enfants au-delà de 5 ans, 10 ans qui sont la tranche la plus affectée.
Qu'est-ce qui est à la base de cette épidémie, à moins qu'elle soit une première de la zone? Quels sont les facteurs qui concourent à ce que cette épidémie puisse refaire surface dans la zone de santé de Douma?
Le vrai problème, c'est qu'il y a un peu de réticence pour que les parents amènent les enfants à la vaccination. Si vous voyez la couverture vaccinale, la zone de santé est loin de la couverture, donc de l'immunité collective. Si je prends au moins l'année passée, nous étions à 84%, alors que pour une immunité collective, au moins 95% de couverture vaccinale.
Si je comprends bien, docteur Lucien, c'est que ce sont les parents qui refusent de céder ou de donner leurs enfants aux vaccinateurs pour qu'ils reçoivent cet antigène, là, ce vaccin contre la rougeole.
Le contexte de la zone de santé de Douma est complexe. D'abord, nous sommes à la frontière avec deux pays, c'est-à-dire le Soudan du Sud et la République centrafricaine. La deuxième raison, c'est qu'il y a des échanges humains entre les habitants de ces deux pays-là. Et les deux pays-là, la République centrafricaine et le Soudan du Sud, nous savons tous que ce sont des pays qui ne sont pas stables. Il y a des groupes armés ici et là, et le fait qu'il y ait ces contacts-là, ça permet que la maladie puisse facilement aussi traverser vers chez nous.
Qu'en est-il de la prise en charge de malades? Est-ce que avez-vous assez de stock de médicaments ou même du personnel médical qualifié pour faire face à cette épidémie, bien sûr en termes de riposte?
Oui, pour ce qui concerne la riposte, nous avons d'abord, après que les échantillons se sont révélés positifs, il fallait maintenant continuer à élaborer la liste linéaire, c'est-à-dire recenser tous les cas avec toutes les informations concernant les cas de ces rougeoles-là, à envoyer au niveau de l'antenne PEVS, que nous avons déjà fait ça, et pour préparer une riposte de l'antenne PEVS pour les aires de santé concernées. Mais nous, à notre niveau, avec le moyen des bords, nous nous sommes dit, bon, avec le moyen, on va vacciner autour des cas. Alors les vaccins que nous avions ne peuvent pas suffire à vacciner tous les cas. C'est pourquoi nous demandons à la hiérarchie, à l'antenne PEVS, de pouvoir nous appuyer pour que nous puissions vacciner autour des cas. Et les établissements de soins de santé ont déjà des problèmes parce que tellement qu'il y a beaucoup de cas et il n'y a plus de médicaments. Et souvent les parents sont démunis, ils n'ont pas assez de moyens, ils viennent alors qu'ils n'ont pas d'argent. Et le peu de médicaments que les établissements de soins en avaient sont déjà presque épuisés.
Docteur Lucien Arwando, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de Radio Kapi ce soir, le chef de la zone de santé des Dungu-Droma dans le Haut-Ouélé, Dr Lucien Arwando, interrogé par Jean-Claude Lokidile. Et c'est la fin de cette édition d'information. À Kinshasa, il est 18h20. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Gilles Bilan-Dankoumar qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale dans l'Airung Mouchinch.